sommes une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé.
Ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
N'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
Pas des cadeaux.
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever de nos nosographies psychiatriques qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Salut, vous l'avez entendu, c'est On n'est pas des cadeaux, avec un tout petit peu de retard, et cette semaine, c'est le premier volet d'une série de deux émissions sur la transmission des vies, des communautés et des luttes transpédéguines. Et pour ces émissions, pour celle-là en particulier, on est parti de quelques questions. Comment transmettre nos vies et nos luttes, quand on veut ou quand on peut pas le faire dans le cadre, les cadres habituels de la famille ou de l'école, par exemple? Comment aussi faire vivre nos souvenirs, au-delà des albums photos de quelques personnes ou de l'enjeu des conservations des fonds d'archives dans les bibliothèques ou autres. Et pour y répondre, on découvre ensemble plusieurs projets qui sont présentés par celles et ceux qui les font vivre. Il s'agit de Mémoire minoritaire, du Patchwork des noms, de Queer Code, de Ni invisible ni oublié et de Utopia traduction. Bonne écoute.
Et on a fondé avec un copain l'année dernière une association qui s'appelle Mémoire minoritaire et qui a pour but de collecter et de valoriser des archives, des traces, de documents de personnes qui sont minorisées dans l'espace public, notamment des minorités sexuelles et de genre, LGBTQI et transpédéguine. J'étais dans un mémoire de recherche en histoire et donc j'ai eu un problème, c'est qu'en histoire on a besoin de sources et que pour écrire l'histoire queer c'est assez compliqué d'avoir des traces, des archives, des documents, et on se rend vite compte que les fonds documentaires archivistiques qui sont dans des institutions, ils sont pas suffisants. Donc du coup, en fait, j'ai contacté plusieurs personnes, des associations et le centre LGBT de Lyon. J'ai encore creusé les archives et tout ça, je suis allé en dehors de Lyon. Et en fait, au moment où je commençais vraiment à m'y intéresser, il y a eu un petit week-end transpédéguine à Toulouse. Et donc qui a fait émerger plein de questions autour du rapport aux archives, rapport aux institutions, des violences aussi qui pouvaient émerger face aux recherches universitaires, face aux militants, militantes aussi, aux problèmes de précarité, au problème de qui parle de qui et comment. Enfin voilà, c'était vraiment super intéressant. C'était un peu le gros coup de poing quand même, parce que enfin moi je suis arrivé là-bas, enfin j'étais assez content de ma position universitaire, mais aussi gay. Et parce que j'étais assez fier en fait de porter à l'université un travail de recherche là-dessus, parce que enfin c'est pas facile en fait de faire ça à l'université. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'étais aussi dans une position de pouvoir parler à ces personnes et tout ça. Enfin voilà. Et donc ça permet de mettre en perspective certaines choses, certains rapports aux archives et aussi voilà. Donc sur la pratique de qu'on a après de sa recherche, c'est vraiment, enfin, ça a vraiment eu un déclic qui fait bouger certaines choses. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis plus investi de manière, on va dire, j'étais plus à l'écoute et plutôt à regarder ça, à essayer de collecter des archives, mais pas de manière, en fait, à extraire les documents, à les couper. Des gens qui les produisent, mais plutôt au contraire à essayer de, bah, d'impliquer aussi les personnes et de transmettre aussi. Moi j'avais accès à certaines ressources universitaires et bah, aussi bah, faire le lien, voilà, que ce ne soit pas forcément que de l'extraction de savoir de ces, des savoirs militants, mais que bah, ça serve aussi des luttes actuelles en fait. Du coup en fait ça m'a fait bouger. Et j'ai rencontré pas mal de personnes. Et Marguerin, en fait, pendant le week-end sur les archives TPG à Toulouse, Marguerin, lui, il organisait à Lyon, dans le cadre de son travail à la bibliothèque municipale, un cycle sur les mémoires minoritaires. Et donc, comme Marguerin est médiateur numérique, donc il y avait toute une réflexion autour des mémoires des personnes LGBTQI et notamment des cycles d'ateliers autour de Wikipédia, autour de la cartographie, enfin voilà. Et donc on s'est rencontrés et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Donc on a monté une association. Du coup ça c'était en octobre 2017. Qui s'appelle Mémoire minoritaire et en fait qui a pour but de refaire des ateliers, enfin ce cycle d'événements à peu près chaque année pour essayer de creuser cette pratique là et voilà, et d'être vraiment, enfin surtout ce qu'on voulait faire c'est faire un truc à Lyon, voilà, c'est faire bouger les choses ici parce que enfin on est au courant, on est même en lien avec d'autres villes, et l'intérêt, c'était justement de faire émerger des savoirs LGBTQI ici, quoi. Enfin, on est là et la matière est là, en fait. On n'a pas besoin non plus de partir ailleurs, voilà. Il y a quelque chose à faire ici, c'est ça qui est intéressant. Un cycle. Donc pareil, on a repris une exposition, on a montré des documents de 4 fonds d'archives. Et le but en fait de ces 4 fonds d'archives, c'est de montrer qu'ils étaient de provenance différente et qu'on pouvait aussi les réunir dans un endroit. Enfin, le truc fondamental, c'était de montrer que ça existe. Enfin, les archives en fait, elles existent, elles sont même pléthoriques, il y en a partout. Et même on peut les créer et. Et quand on creuse, en fait, on se rend compte que, voilà, elles sont nombreuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sauvegardées, ça ne veut pas dire qu'elles sont bien mises en valeur, ça, voilà. Donc il y a plein de problèmes autour de ça, mais déjà, l'idée qu'il n'y en a pas et qu'on ne va jamais pouvoir écrire l'histoire queer, ça, c'est difficile de partir de cette idée-là, en fait. Mais en fait, plus on creuse, plus on trouve, voilà. Et donc, on a réuni ces fonds d'archives. Donc, il y a un fonds d'archives de la bibliothèque municipale, parce qu'il y a un fonds qui est géré par Michel Chomarat, donc il y a un collectionneur qui a déposé depuis 1992 ses documents au fonds ancien de la BM. Il y a une partie du fond qui est dédiée aux cultures gays et lesbiennes, surtout gays. Il dirait le contraire, mais c'est quand même très très masculin. Il gravitait un peu autour des mouvements homosexuels radicaux des années 70. Donc c'est une personne qui a eu des ressources personnelles en fait et qui a réussi à créer un fonds qui est hyper intéressant en France, qui est pratiquement unique. Et dans les années 2000, a vraiment essayé de lancer au sein d'une institution un espèce de mouvement autour des cultures gays et lesbiennes. Donc voilà, donc il y a le fonds Chomarat et le fonds Louise Labbé. Fonds Louise Labbé donc, qui contient des documents sur le féminisme. En fait, c'est une bibliothèque et des archives qui ont été constituées par des enseignants et des enseignantes de Lyon 2 à partir du milieu des années 70 dans une structure qui s'appelle le CLEF, le Centre Lyonnais d'études féministes. Et donc à Lyon, en 75, il y a eu un centre des femmes avec plusieurs commissions, et au sein de ce centre des femmes, il y avait une commission de lesbiennes. Et donc il y a aussi des traces d'archives de lesbiennes du coup dans ce fonds d'archives Louise Labbé. C'est un fonds qui est vraiment hyper intéressant sur le féminisme, sur l'engagement contre le viol dans les années 70. Voilà, enfin c'est vraiment extraordinaire. Après, donc un autre fonds qui est le fonds Bruno Herail. Bruno Herail, c'est notamment un militant du groupe de libération homosexuelle dans les années 70, qui s'est aussi engagé dans beaucoup, beaucoup de luttes différentes, lutte antinucléaire contre au Larzac aussi. Et donc il a compulsé plein de documents et il a déposé tout ça au CEDRA, qui est un centre de ressources documentaires et d'archives qui est dans les pentes de la Croix-Rousse et qui conserve en fait les archives des collectifs et des associations alternatives de la Croix-Rousse. Voilà. Et ce fonds est génial parce qu'il est brut en fait. Quand on tombe dedans, c'est un carton. Mais c'est un gros carton de déménagement, c'est pas un carton d'archives. Et tout est un peu en vrac, mais enfin, on a l'impression de tomber sur... c'est un peu un trésor, quoi. Donc, ces vieux documents, c'est un peu génial. Donc toucher un peu ça, c'est assez émouvant aussi, quoi. Et voilà, et on a aussi trouvé, du coup, enfin, ramener un peu des fonds de différentes associations, du planning familial, et aussi de ce que m'avait donné un ancien militant du GLH, donc qu'on a maintenant gardé à mémoire minoritaire, qui a un fond de photo d'une manifestation du 1er mai 79. Faire des choses autour des archives, c'est déjà super en fait. Et ça fait un peu boule de neige, c'est-à-dire qu'après, c'est un peu diffuser une culture de l'archive, en fait, et de montrer à des personnes aussi que leurs documents, ils sont aussi intéressants, en fait. Enfin, j'ai l'impression, parfois, que les personnes LGBTQ, enfin, se disent que leurs traces n'ont pas d'importance, enfin, voilà, comme ils sont aussi dévalorisés dans la société, donc, je sais pas, c'est, voilà, ils sont déjà invisibilisés, donc en plus, pourquoi garder des traces et tout, enfin, voilà. Et déjà, rien que dire et de montrer que ces traces ont de l'importance, ben, c'est déjà important, justement. Et puis, en fait, ça fait aussi boule de neige, c'est-à-dire que les gens, enfin, là, on a fait une exposition, et après, les gens, des gens qu'on n'avait pas forcément contactés vont nous contacter et nous dire « Ah bah moi j'ai ça, est-ce que vous voulez ça ?» voilà. Et d'eux-mêmes vont proposer en fait. Là, on va faire on a comme projet de faire un appel à don d'archives. Donc, ça fait aussi partie de notre pratique. Mais c'est pas non plus, enfin, pour moi, c'est pas non plus l'objectif principal. Enfin, collecter juste pour collecter, c'est pas, voilà. Avoir une réflexion autour de ces documents, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, en fait. Et puis, ça permet, je crois que les personnes aussi qui participent aux ateliers, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a quelque chose qui se crée. Et, enfin, c'est une réflexion qui est en cours, quoi. Enfin, j'essaye de pas l'arrêter, justement, parce que si je me dis que si j'arrête de réfléchir là-dessus, que je commence à choisir, tout s'écroule, mais voilà.
Oui, mais moi je trouve que vous n'allez pas assez loin. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit. Enfin, je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle.
On parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale.
Arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il ne nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas se reproduire. Il nous a donné le moyen de choisir un sexe. Hein. Nous avons d'ailleurs ici, dans l'Assemblée, un travesti qui a choisi un autre sexe que le sien. Eh bien, je vous assure, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure n'était pas en ballant. Hein. Elle n'arrive pas à vivre.
La question qui se pose à propos d'homosexualité, c'est la question de la répression des homosexuels et non pas la question de pourquoi est-ce qu'ils le sont devenus.
Nous la posons. Moi, je tiens à poser deux questions. Savoir pourquoi ils le sont devenus intéresse beaucoup notre public et beaucoup les parents qui ont des enfants. Mais on peut poser la question de la répression. Qui veut parler de la répression? Lançons la répression. Qui veut parler? Il y a des mains qui se lèvent partout. Les homosexuels semblent souffrir de répression. Qui nous disent ce qu'ils entendent?
La répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels.
Ça, c'est une très belle question. Quand vous dites ça, d'ailleurs, vous avez une prise de position personnelle. Vous semblez croire, comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels. Et je vous suis totalement, car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro.
Bon. Alors, moi, je voudrais continuer à propos de la coercition familiale. Que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels. Et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour. Et vis-à-vis de la femme,
écoutez,
vis-à-vis de l'homosexualité.
Les hommes, les hommes qui sont à l'écoute savent très bien ce que c'est, les femmes aussi. Mais si, si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe. Vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Mais évidemment. On n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à monsieur Baudry qu'on n'a pas encore entendu. La revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à monsieur Baudry? On a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question.
Allez-y, continuez, je vous entends.
Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle, qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé de bruit de la salle qui nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement.
Cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
C'est plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté, liberté.
homosexuels de tout ordre, hommes et femmes.
Nous demandons la liberté pour nous.
QueerCode, c'est une plateforme numérique. On a en fait regroupé des savoirs. On a justement aussi cherché à regrouper des savoirs que souvent on va hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il y a des articles d'historiennes universitaires académiques, et puis il y a des articles d'activistes, il y a aussi des présentations de spectacles, de performances, il y a des œuvres littéraires, de fiction, il y a des documentaires audiovisuels, il y a mille et une forme en fait d'expression pour raconter ou tenter de raconter ces histoires des femmes qui ont aimé des femmes, qu'elles soient cis, trans, bi, lesbiennes, qui ont donc aimé d'autres femmes. Et on voulait aussi ne pas être dans l'écueil du roman national, tout en montrant en fait aussi tout ce qu'il y avait en enjeu dans certaines commémorations actuelles en Europe. Et on a aussi donc justement voulu regrouper des histoires de l'Europe, d'Amérique. Et l'idée, c'est vraiment de montrer aussi qu'à cette période de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup de déplacements, et avant, pendant et après. Et on voulait aussi, maintenant ces temps très complexes, avec aussi beaucoup de gens qui subissent et qui doivent se déplacer, mais voilà, questionner aussi ce qui se passait aujourd'hui et nos solidarités d'aujourd'hui. Alors, je suis Isabelle Salem Diego Santis. Je suis beaucoup de choses. Je suis une activiste de genre fluide, lesbienne. Je suis une activiste de lutte contre le sida depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis aussi une drag king. Je mélange les pronoms parce que je suis dans la fluidité de genre. Et je suis passionnée par mille et une choses et mille et un combats. Moi, j'ai 44 ans et je milite pour la reconnaissance de la déportation et des persécutions des personnes lesbiennes, bi, gay, trans, même si ce n'est pas du tout les termes que ces personnes employaient pour s'autodéterminer à l'époque. Depuis que j'ai 18 ans, donc j'étais au Flamant Rose pendant plus d'une dizaine d'années, il y a bien longtemps déjà, plusieurs décennies. Donc en fait, des groupes qui sont mobilisés pour réfléchir, faire connaître, c'est déjà toute une histoire en elle-même. En fait, la cellule de départ, donc c'est effectivement avec des amis avec qui on militait déjà, avec qui on avait fait déjà plusieurs regroupements, donc le collectif Lesbien. C'est aussi des individuels avec qui on avait pu militer à Lille, puisqu'après il y a des gens par exemple qui vont traduire des articles, il y a des gens qui font, voilà, il y a différents modes d'action pour se mobiliser dans le collectif. Et puis parfois il y a des personnes qui vont se mobiliser sur plutôt un projet. Donc c'est vraiment très fluctuant selon les envies, les possibles des personnes. Et le noyau dur, en fait, on est 5. Alors cette période au départ, on s'y contraint parce qu'elle est difficile, elle est complexe et elle est aussi un gros enjeu mémoriel et de lutte en interne de la communauté et à l'externe de la communauté, si je puis dire. Donc là, pour l'instant, encore pendant peut-être encore un an, on va encore se concentrer sur cette période. En fait, qui est très documentée, concernant la France, d'autres pays européens et les États-Unis, l'Angleterre, va être les années 20-30. Ensuite, vraiment, la Seconde Guerre mondiale, très complexe, très documentée par les hétérosexuels, pour les hétérosexuels, de façon très hétéronormée, très hétérocentrée. Et ensuite, les gays, certains gays qui ont transmis une partie de l'histoire, mais qu'une partie aussi, avec différents enjeux. Et puis bien sûr, après, on arrive vers les années 60, 70, le phare, etc., les gasolines, les gouines rouges. Et voilà, et après tout ce qui défile de la suite et qu'on connaît, qu'on découvre toujours aussi, hein, voilà, parce qu'on partage des ressources, des sources, des témoignages. En fait, l'histoire, les archives, c'est en mouvement, en fait. Il y a plein d'énergie, de synergie qui font qu'on va relier des fonds d'archives, on va découvrir des témoignages. Là, par exemple, il y a... concernant les lesbiennes, ben c'est vrai qu'on est aussi, effectivement, il y a toute une histoire avec des femmes liées à la prostitution. Et si on regarde la Seconde Guerre mondiale, il y a des archives qui n'ont pas du tout été ouvertes, de la prison de la Roquette, par exemple. Et là, il y a toute une histoire à découvrir. Et on découvrira peut-être ou pas, ou en tout cas, on ne regardera peut-être pas ces archives comme étant potentiellement une partie de notre histoire. QR code, c'est bien sûr une référence au QR numérique. Et puis, c'est aussi... toute cette référence au code et toutes les personnes qui ont décodé des codes, notamment les codes nazis, pour arriver à des informations et à permettre d'empêcher certaines actions. Et c'est aussi d'autres qui ont codé leurs lettres d'amour, d'autres qui ont créé des codes aussi dans la résistance. Voilà, des jeux de mots divers et variés. Alors parfois, on va aller dans des centres d'archives. Par exemple, il y a 2 ans, on voulait questionner avec tout ce qui se passait à travers le monde, avec les camps de réfugiés. On voulait aussi réfléchir à toutes les camps d'internement qu'il y avait eu en France. Donc on n'a pas pu, avec nos moyens d'activistes, nos moyens de personnes minorisées dans cette société, aller dépouiller toutes les archives de tous ces camps d'internement français organisés par l'État français. On en a commencé par en faire un. On est allé à Mende, dans un camp où il n'y avait que des femmes, et notamment qui a regroupé des antifascistes allemandes, des femmes tziganes, des femmes françaises, des femmes de différentes nationalités, des femmes espagnoles. Et on a, voilà, pendant plusieurs jours, dépouillé des archives qu'il y avait donc dans les archives départementales. Ensuite, on va aussi lire des ouvrages d'historiennes, d'historiens. On va aussi accompagner des familles, des neveux, des nièces, qui ont des matériaux, journaux intimes notamment. Et puis, dans le dialogue, on se retrouve avoir une source. Et dans cette source, on va aussi essayer de la confronter à d'autres sources. Et parfois, on peut trouver d'autres archives, et puis parfois pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'archives de cette époque qui ont été détruites. Et en faisant ça, c'est vrai qu'on questionne aussi tout ce travail de classification de certaines archives, de certains accès à certaines archives. Alors après, on manque parfois de temps, de moyens financiers pour aller voir certaines archives et pour pouvoir aussi être critique par rapport à, par exemple, des écrits d'historiens, d'historiennes. Et donc, on le sait, on le dit, voilà, on dit où on en est. Effectivement, il y avait un enjeu de lutte. Vraiment un enjeu de lutte. Là, par exemple, je suis très en colère. Il y a 2 ans, une assoce de gays qui a eu des moyens, et tant mieux pour eux, qui ont su se donner les moyens, qui ont eu des connexions, qui ont fait un super colloque. J'y étais pas, et très intéressant. Ils ont réuni des universitaires, plein de gens passionnants sur ces questions mémorielles de la Seconde Guerre mondiale. Aucune personne n'a évoqué l'histoire des lesbiennes. Bon, merde, quoi. Et on dit, non, c'est pas possible, quand même. Et pourtant, ils l'avaient bien mis dans le titre, en plus de leur colloque. Donc c'est vrai que on a priorisé le fait de dialoguer avec des groupes féministes, lesbiens, transpédéguines, LGBT féministes, qui effectivement sont consciencieux, et ils sont nombreux en France à conscientiser le fait qu'il y a des mécanismes d'oppression et d'invisibilisation vécus par les femmes qui ont aimé des femmes bien spécifiques, et que c'est important de les découvrir. Et ça permet, en découvrant ces mécanismes, de pouvoir mieux connaître encore l'histoire gay. Donc heureusement, il y a plein d'alliés, il y a plein de personnes mobilisées, et donc on avait priorisé. On a très envie, nous, de faire aussi un gros travail de médiation. Donc, on a fait le choix d'une médiation numérique, mais pas que. On fait aussi le choix de matérialiser, de rematérialiser les ressources qu'on présente sur notre site Internet. Pour nous, c'est important que ce soit autant dans les bibliothèques de lieux LGBT, de lieux lesbiens, de lieux queer, pour qu'aussi dans nos imaginaires, dans nos consciences, en fait, ça matérialise toutes ces archives, en fait. Parce que je trouve que c'est très important, on a vraiment, en 3 ans, vraiment rassemblé beaucoup. Alors ce n'est pas exhaustif, hein, on continue, et n'hésitez pas, si vous voyez passer un article, un film, voilà, vous nous écrivez, voilà, il nous manque plein encore de ressources, même s'il y en a déjà beaucoup. Et on les rematérialisait dans nos espaces, mais aussi dans l'espace public. Pour nous, c'est des actes forts pour vraiment prendre conscience que ces archives existent, que cette histoire, ces histoires existent. Et donc, voilà, ça prend plein de formes. Et là, il y aurait des heures à passer à raconter tous nos dispositifs. Et on va continuer d'en créer. Si vous avez envie aussi, vous êtes intéressé pour en créer. Il y a peut-être un lien dans tous mes engagements. C'est vraiment une conscience très, très puissante, très corporelle, très, très épidermique. Je ne sais pas tout ce qu'il faudrait dire concernant la notion de mémoire, de transmission. Je crois que ce soit en tant que sœur de la perpétuelle indulgence, Salem, c'est mon nom de sœur, de Diego, de King, il y a cette transmission, alors transmission souvent orale de notre histoire, que ce soit par des ateliers, des workshops, des performances, des happenings, des manifestations. Mais il y a aussi l'envie d'amasser, de transmettre des objets, d'autres formes en fait de témoignages et de sources archivistiques. Et là, ça prend plein de formes. You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. Ils ont été créés pour se souvenir de personnes mortes du sida. Mortes du sida, mais c'est aussi mort dans un contexte de haine. Dans le début de l'épidémie aux États-Unis, c'était Ronald Reagan qui était en charge de ce pays et qui malheureusement pétrit d'homophobie, pétrit de sexisme, pétrit de racisme, pétrit de sérophobie, eh bien, a laissé des hommes, des femmes, des enfants crever. C'est le terme. Et il a fallu des activistes, des hommes et des femmes qui ne l'étaient pas, des soignants, pour montrer à quel point il y avait besoin que la société se mobilise, à quel point il était important que les politiques se mobilisent, qu'il y ait des moyens donnés à la recherche, des moyens donnés aux soignants. Et pour cela, on a créé, nos aînés ont créé le patchwork des noms. Et ils se sont dit comment réunir des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui sont exclues, des personnes qui sont isolées, comment les relier? Comment aussi sensibiliser des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, puisqu'on n'en parle pas dans les médias? Quand on en parle dans les médias, bien sûr, on déforme, on déverse la haine. Eh bien, ils ont décidé de revenir à la culture américaine. Ils se sont rappelés effectivement qu'il y avait cette culture du patchwork. Et l'idée aussi de créer ces patchworks, c'était au départ dans les années 85, permettre à des personnes qui étaient exclues de cérémonies de funérailles, parce qu'ils étaient gays, parce qu'ils étaient tox, parce qu'ils étaient tout ce qu'ils étaient, et bien de pouvoir se réunir, de se rappeler de la personne, et puis aussi et bien de se rappeler des moments extraordinaires passés avec ces êtres.
prendre le patchwork, mes sœurs. Vous allez le tenir un petit peu en suspension. Et puis, je vais maintenant faire avec mes sœurs, on va lire des prénoms de personnes décédées des suites du VIH. Alors, on va commencer donc la fameuse incantation de nos amis Amour, Amante, Amant, décédés. Éric, Valentin,
Nicolas,
Noël,
Hervé,
Olivier,
Will,
Jules,
Marc,
Didier,
Hélène,
Valérie,
Alain,
Abdelkaram,
Philippe,
Jean-Loup,
Daniel,
Nadia,
Charlotte,
Florent,
Jean-Marc,
Ibrahima,
Stéphanie,
Zora,
Vincent,
Joël,
Agnès,
Dominique,
Fabrice,
Lucie,
Torino,
Mathieu,
Germaine,
Diane. Si vous avez d'autres prénoms que vous souhaitez ajouter à cette liste, n'hésitez pas à venir me voir. Et elle sera lue, ses prénoms seront lus lors de d'autres cérémonies.
Et pour moi, tout ça, c'est lié, en fait. Quand j'ai commencé à me dire Gwyn et à vivre, voilà, commencer à vivre ça et connecter avec d'autres personnes, ben, féministes, transpédéguines, à apprendre plein de choses dans ces milieux-là, et aussi à me poser plein de questions sur des pratiques de... Ben, juste lire des articles et des livres en anglais, notamment, parce que j'avais fait des études d'anglais et étudié l'histoire comme ça des pays notamment anglophones. Au bout d'un moment, ben c'est assez logique, t'as envie de connecter ben ces trucs d'identité politique avec ben c'est quoi en fait l'histoire, c'est quoi nos ancêtres à nous, c'est qui en fait, ils sont où, on nous en parle pas, enfin c'est comme s'ils existaient pas. Alors que en fait, quand tu te mets à lire, quand des potes te disent « Ah, il y a tel livre », souvent ils ne sont pas traduits. Mais bon, moi, comme j'avais cette capacité à lire dans d'autres langues, notamment en anglais, bah, ça faisait, j'avais accès aussi à plein de choses que peut-être d'autres ne peuvent pas lire. Et du coup, pour moi, la pratique de la traduction, c'est ça aussi, c'est permettre un accès à toute une sorte de filiation perdue et agéographique, du coup, parce que du coup, on n'est pas non plus les descendants des queer et trans états-uniens, tu vois, mais il y a quand même un truc qui se fait quand même, où on se sent quand même proche de ça, et c'est un peu les seules choses qu'on nous dit comme référence plus ancienne sur des trucs de sexualité, de genre et tout ça. C'est pas les seuls, mais c'est quand même ce qui domine. Je fais partie d'un collectif de traduction qui s'appelle Utopia Traduction et qui a un versant militant qui s'appelle Dystopia Traduction. Et en fait, ce qu'on fait, c'est du partage d'outils et de la traduction collective. C'est-à-dire on fait des ateliers, donc ça vient beaucoup de la culture DIY que moi j'ai apprise avec le féminisme, les squats, tout ça, et le milieu transpédéguine en fait, ce truc de vraiment tu as une compétence ou ta pote a une compétence, et ben tu vas faire un atelier pour la partager, et puis comme ça t'apprends à faire des nouvelles choses ensemble, collectivement et tout ça, puis ça te donne de la force, tu dis qu'en fait t'es capable de le faire et tout. Et du coup, pour moi, ce truc de traduction, assez vite j'ai eu envie de le faire à plusieurs. Pour moi, ça faisait pas sens. Pour moi, toute traduction est collective en fait. Du coup, faire des ateliers, commencer à en parler avec des potes, et puis se monter en collectif, puis ensuite dire « Ah, ce serait trop bien de faire des ateliers autogérés autour de la traduction. » Parce qu'en fait, il y a tout le temps des gens qui ont envie de traduire des textes parce que ça leur parle et qu'ils ont envie de les partager. Et qu'en fait, la traduction, c'est du partage. Et ça participe aussi à ce truc de mémoire minoritaire pour moi. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont jamais être traduites et qui ne le sont pas. Parce que c'est très souvent, quand même, c'est des personnes dominantes qui décident ce qui est publié. Et donc, finalement, un peu ce qui est lu aussi, ce qui est traduit. Et ce qui est lu. Donc, faire de la traduction, du partage de connaissances autour de la traduction et faire de la traduction collective, ça permet de traduire des choses qui sinon ne seraient pas traduites. Tu vois, il y a quand même des bouquins, on le sait, qu'on attend depuis 30 ans parce que les gens quand même savent que ça existe, tel ou tel livre, tu vois, mais ne peuvent pas le lire. Par exemple, j'ai participé à une petite échelle à Stone Butch Blues, là, qui va sortir bientôt. Et c'est un livre quand même qui a été publié il y a fort longtemps maintenant, quoi. Et qui, en fait, est super important pour plein de gens. T'imagines l'écart, le décalage que ça crée dans, en fait, l'empowerment, tout le bien que ça aurait pu te faire, par exemple, si t'avais pu lire, si t'es Gwyn, si t'es Butch, si t'es trans, et que tu peux lire ça quand t'as, j'en sais rien, 15 ans, par exemple, au lieu de quand tu le lis et là, t'as 35 ans. Enfin, t'imagines, c'est trop... Enfin, il y a un truc un peu dommage, mais bon, mieux vaut tard que jamais, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu reconnecter avec des ancêtres. Pour moi, Leslie Feinberg, par exemple, je peux sentir que c'est une de mes ancêtres queer, en fait. On parle de famille queer, de famille choisie, etc. Ben pour moi, ça en fait partie. Mais après, le problème aussi, et c'est pour ça qu'à Utopia, traduction, on réfléchit beaucoup à tous ces trucs-là de aussi langue dominante, culture dominante, etc. Parce qu'à un moment donné, d'avoir que des trucs qui viennent des États-Unis, c'est problématique aussi, quoi. Et du coup, on veut aussi traduire, et on le fait, des textes de l'espagnol, par exemple, qui vont être des textes sud-américains, notamment, etc., pour aussi que ça alimente notre pensée et pas rester sur des trucs identitaires rigides et des mémoires aussi très dominantes à l'intérieur du minoritaire. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si j'explique bien, mais... Comme une copine disait, qui est pas française, elle disait, mais en fait, moi, enfin, des auteurs des États-Unis, enfin, c'est pas mes ancêtres, en fait, c'est pas, enfin, moi, ça, elle disait qu'elle se sentait pas trop concernée par ça. Évidemment, ça provoque plein de réflexions et tout, tu réfléchis et tout ça, mais comment tu t'identifies, comment tu te vis toi-même, comment tu connectes avec des expériences qui sont plus ou moins proches des tiennes et parfois très éloignées aussi, en fait. Du coup, c'est quelle mémoire qui... ouais. Et aussi, ce qui m'intéresse, ce serait qu'on apprenne à valoriser nos propres vécus, comme aussi de l'histoire, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, ouais, on n'est pas des rois de France, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, à un moment donné, il faut aussi, nous, qu'on écrive, qu'on se dise, en fait, si on fait une action, en fait, ça a une valeur. Et du coup, peut-être, c'est cool d'écrire un communiqué dessus, tu vois. Et ce que fait Bashback, du bouquin là, vers les plus queer des insurrections qu'on a traduit collectivement et tout ça, et ben en fait, ils et elles ont fait exister justement ce mouvement parce qu'il est documenté, parce qu'il y a des communiqués, parce que dès qu'ils lâchaient une banderole à un endroit, tu vois, hop, ils écrivaient un communiqué. Et ça fait que ça existe, et ça fait qu'il y a une histoire, et ça fait que nous, après, on peut lire ça et... trouver de la force dans ces actions qu'ils ont menées ou les discours aussi théoriques qu'ils écrivaient, mais dans ce truc vraiment d'action, de dire bah en fait oui, en fait on est des personnes queer et en fait on fait des choses. C'est pas vrai qu'on est là juste à faire la fête, et la fête aussi on l'a fait, et ça a aussi plein de sens, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que c'est ça aussi, c'est comment nous, quels efforts on fait nous-mêmes pour créer notre propre mémoire, la faire exister.
Moi, je m'appelle Mathias Et avec Marie, on a eu l'année dernière un projet autour de faire des émissions de radio autour de l'histoire des squats trans pédéguines à Toulouse. Et s'il faut continuer à se présenter, sinon, bah voilà, on pourrait dire qu'on est, ou en tout cas moi je suis un peu militant trans pédéguine à Toulouse.
Moi je m'appelle Marie, je fais de la radio, pas mal à Canal Sud, qui est une radio associative à Toulouse. C'est une radio dans laquelle il y a assez d'espace ou de possibilités pour proposer des choses assez multiples, et c'est dans ce cadre-là que avec Mathias on a décidé de pouvoir faire ces émissions ni invisibles ni oubliées. Après, ben, j'habite à Toulouse et je le dis parce que moi j'ai l'impression que ce projet c'est un projet de recherche locale aussi, et que moi il est aussi vraiment parti de, du fait que j'habite ici, du fait que je suis féministe, du fait que je suis Gwyn, et que j'avais vraiment envie de connaître bah, toutes les histoires finalement que je connaissais pas trop de c'est quoi les lieux, les espaces, ça a été quoi les alliances, les luttes à Toulouse quoi, sur les groupes ou les personnes LGBTQI et TPG ici quoi. Et qu'est-ce que, comment ça dessine un peu l'environnement dans lequel on est aujourd'hui?
Il y a un an, au mois de juillet, en fait, il y avait un week-end radio organisé autour de l'histoire des luttes à Toulouse, mais aussi de manière plus générale. Et puis, il y avait un atelier qui s'appelait Lutte invisible et lutte oubliée. Et ça nous a parlé. Il y a une histoire transpédéguine à Toulouse qui existe depuis maintenant quand même assez longtemps, la fin des années 90, le début des années 2000, et en vrai, ben, on n'en connaissait pas grand-chose, quoi. Et ça nous a intrigués, et puis, ouais, un peu un rapport à ça, à l'archive, au passé, et de vouloir, de vouloir creuser un peu ça. Et donc, on en a profité de cet atelier-là pour commencer à réfléchir à cette question. Et très vite, en fait, on s'est dit que ce qu'on voulait, nous, c'est que cette histoire, elle soit visible et qu'elle ne soit pas oubliée, d'où la transformation du titre de l'atelier. Et donc, ce qu'on a essayé un peu de faire, c'est d'aller à la rencontre de personnes qu'on savait qui étaient à Toulouse depuis maintenant quelques temps, qui soit étaient encore dans la lutte, soit l'étaient moins, mais qui, en tout cas, avaient participé à cette histoire de squat transpédéguine à Toulouse. Et ça s'est matérialisé par un week-end en octobre de l'année dernière où voilà, on avait déjà fait un certain nombre d'interviews et que Marie a tellement bien monté. Et en fait, ce qu'on a proposé, c'était un espace d'écoute où les personnes elles pouvaient venir écouter finalement les différents entretiens qu'on a faits. Et plutôt, on a eu des retours qui étaient assez chouettes. Et à ce moment-là, on s'est dit... Peut-être que ça pourrait valoir le coup de, bah, d'en faire une émission.
Et après, ça a vraiment affiné le fait qu'on se dise ce qu'on cherche, c'est des portraits d'espace et des portraits de lieux. En fait, oui, on n'a pas forcément le temps de faire tout un travail sur avoir 15 personnes du même lieu qu'ils racontent pour l'instant. Et donc, comme on ne voulait pas personnifier ou on ne voulait pas forcément... Du coup, notre angle, c'était de trouver des personnes pour faire des portraits de lieux et pas pour parler forcément d'elles dans ce lieu, quoi. Et pour essayer d'avoir des photos et pour se faire des images, en fait. Comment ils étaient ces espaces, comment ils étaient ces lieux, enfin, etc. Mais on a commencé, voilà, on a commencé comme ça, et on a fait quatre ou cinq interviews. On les a montées et on s'est dit, on les met en écoute. On a fait à ce moment-là aussi, là où il disait à la chapelle, en fait, on a affiché les lieux, les dates. Et on a mis aussi des stylos pour que les personnes, elles complètent, en fait, pour qu'elles disent « Ah ben, il y avait aussi ce squat, ah ben, il y avait aussi cet espace, il y a telle et telle personne à voir. » Enfin, ça faisait aussi partie de continuer le travail de recherche. Et il y avait des baladeurs MP3 dans une bibliothèque, et les personnes prenaient les baladeurs pour écouter le portrait de la tapageuse, le portrait du TDB, l'histoire des croisières, l'histoire du festival à Toulouse. Nous, on a envie de connaître ces histoires, et j'ai l'impression que ça nous excite beaucoup de se dire que, comme si on part un peu en enquête, comme un peu des détectives, tu vois, comme une chasse au trésor, quoi. On se dit, il faut qu'on parte à la recherche de personnes, ou en tout cas de noms de lieux, et à partir de noms de lieux, retrouver des personnes. Et en fait, c'est toute une aventure, parce que tu rencontres une personne, elle te parle d'un lieu, elle te parle de toutes les personnes qu'il y avait dans ce lieu, du coup tu te demandes comment les contacter, on te donne des numéros, et après ces mêmes personnes vont t'en donner d'autres. Enfin, il y a vraiment une espèce d'esprit chasse au trésor.
Et à partir de là, on a continué à faire d'autres entretiens avec d'autres personnes qui, pour le coup, ne sont pas encore ni montées et pas encore prêtes à être diffusées. Mais effectivement, c'est un espèce de processus qui s'est engagé. Et une des choses là que disait Marie autour de la présentation de ces lieux, par exemple, c'est une des choses qu'on trouvait aussi hyper intéressante d'aller voir différentes personnes pour parler d'un autre, enfin d'un même lieu en réalité. Et voir c'est quoi le portrait qu'ils et elles en font, parce qu'on peut imaginer que le ressenti de ce lieu, en fait, il n'est pas du tout la même, et du coup, la présentation qui va être faite de ce lieu ne sera pas du tout la même non plus. Et donc, ouais, c'est un truc qui est en cours, quoi, et qu'on a commencé à faire ici à Toulouse, mais qui en réalité pourrait être réappropriable par à peu près tout le monde pour le faire ailleurs.
Ni invisible, ni oublié.
Ni oublié.
Ni invisible, ni oublié. Ni invisible, ni oublié.
Ni invisible, ni oublié.
Ni invisible, ni oublié.
Portrait radiophonique, épisode 1. Des croisières, des squats et des festivals.
Pour commencer l'histoire, je peux parler du Sissis et du sextoy, vite fait. Mais pour en parler, il faut d'abord que je parle de la croisière, toujours. Il faut commencer par la croisière, parce que c'était un moment de rencontre, de PD, de tapette radicale, donc de 1998 à 2003.
Portrait radiophonique, épisode 2, La Relou. Des lesbiennes, des féministes et un squat.
Vous avez une question d'accroche, je pense.
Je sais pas, là, tu pensais...
À quel lieu?
Ouais, quand je te parle de ça.
Je pense à un squat qui s'appelait La Relou, qui a eu... je suis un peu nulle sur les dates. Moi, quand je l'ai été, c'était l'année de la canicule.
TDB.
Le TDB. Alors, le TDB, c'est un squat qui est un peu à la limite entre un quartier résidentiel, de petites maisons, de petits propriétaires. Thank you.
portrait radiophonique, épisode 4.
La tapageuse. Oui, et moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant de partir du lieu d'événement ou de... d'espace, c'est que en fait c'est pas forcément personnifié, et plus en fait ça donne des informations sur c'était quoi les énergies, c'était quoi les rapports de force à ce moment-là, c'était quoi aussi les vagues où il y a plein de personnes qui sont arrivées à Toulouse, ou les vagues où où il y avait pas beaucoup de gens, et du coup ça montre aussi pour moi des stratégies de résistance qui sont complètement différentes selon des périodes et selon des moments et selon des lieux. Donc voilà, enfin, les questions que pose un lieu, les questions que posent les espaces, et pas quel individu a fait ça ou ça. Par exemple, à un moment donné, on parle d'un lieu, et à partir de ce lieu, on nous dit bah, c'est un des premiers lieux où il s'est passé des trucs en non-mixité meuf. Et du coup, t'as la personne qui dit une fois que cette non-mixité-là, elle avait réussi à être légitime dans un lieu, on a pu demander une non-mixité TPG, par exemple. Et du coup, il y avait des lieux qui étaient des lieux faits. Enfin, comment aussi les choses, elles se sont croisées, elles se sont fabriquées ensemble à des moments, comment des fois c'est les mêmes personnes qui sont à ces deux endroits. Aussi, ça raconte aussi l'histoire pour moi de lieux qui devenaient trop institutionnels, ou de personnes en tout cas qui trouvaient plus assez de commun pour fonctionner ensemble et qui se sont séparés. Enfin, ça fait vraiment une espèce de paysage aussi des intérêts communs à des moments, de ceux qui ne l'étaient pas, des désaccords, de qu'est-ce que ça veut dire communauté en fait. Comment les identités dont on parle, elles sont en construction permanente. Et voilà, et comment cette construction permanente aussi, elle construit des intérêts communs et des différences dans les histoires, quoi. En fait, à un moment donné, faire du récit de vie, faire du récit de lieu, là, dans ce cas-là, mais dire ça fait exister, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc comme ça qui est hyper intéressant sur la mémoire, quoi. Du coup, le fait de fabriquer de la mémoire, ça active les mémoires aussi. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'aller d'un point à un autre, et je sais pas qui se souvient de je sais pas qui, et ah oui, mais elle a déménagé, mais attends, peut-être qu'elle revient telle ou telle vacance, mais en même temps, ça fait 3 mois que je l'ai pas vue. Ce que j'aime bien, c'est que c'est impliquant, quoi. Il y a un côté responsabilité, pas responsabilité, mais... un peu engagement collectif de « Attends, j'entends ça, ça active chez moi le fait que j'ai envie de dire ça, et que du coup, ça active ma mémoire sur ça. » Et c'est un peu comme si tout le monde peut participer un petit peu, quoi, à retrouver ces lieux, et à retrouver ces histoires, et à retrouver ces moments de lutte, ou aussi ces moments de fête, ou aussi ces moments de... Enfin, voilà.
Ou même d'activer les imaginaires, en fait. Un truc d'avoir entendu, par exemple, là, l'entretien autour du festival XXYZ, après d'avoir entendu des gens dire « Mais c'est un truc de ouf, mais il faudrait absolument qu'on fasse des choses comme ça. » Et du coup, moi, c'est une des choses que je trouve particulièrement belle quand on s'intéresse un peu à notre histoire et qu'on essaye un peu de la raconter. C'est de dire « Ok, bon, on n'a certainement jamais vraiment rien inventé, quoi, mais du coup, de pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé, ce qui a été fait, pour pouvoir aussi refaire des choses aujourd'hui. » Et des choses qui sembleraient genre impossibles à faire, mais de voir en fait qu'elles se sont passées, et ben ça donne vachement de force.